Géopolitique. Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à la politique française au Moyen-Orient. Avec cette question, la France a-t-elle encore une politique au Moyen-Orient ? Question qui fut au centre d'un colloque organisé au Sénat la semaine dernière par l'IREMO, l'Institut de Recherche et d'Études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient, et la revue en ligne Orient 21. L'enchaînement rapide des événements dans la région et les actions et réactions de Paris donnent aux observateurs l'impression d'un manque de vision globale et de cap clairement définie, présente sur plusieurs théâtres africains, notamment au Sahel, la France au Moyen-Orient adopte une position fébrile. Explication avec nos invités, Agnès Levallois, consultante et spécialiste du Moyen-Orient et des questions méditerranéennes, chargée de cours à l'ENA et à Sciences Po. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Paul Chagnolot, directeur de la revue Confluence Méditerranée et de l'IREMO. Bonjour.
Bonjour.
Et Alain Grèche, directeur de la revue Orient 21. Bonjour.
Bonjour.
Cette question donc, la France a-t-elle encore une politique au Moyen-Orient, qu'est-ce qu'elle vous inspire au regard de l'actualité dont je rappelle quelques éléments? Décision de Paris de finalement participer aux attaques contre des bases de Daesh en Syrie, l'accord sur le nucléaire iranien après avoir fait montre de beaucoup de fermeté au risque de faire échouer cet accord, Paris est finalement rentré dans les rangs des États-Unis. Palestine, pendant plusieurs mois, la France a tenté de promouvoir un projet de résolution destiné à être soumis au Conseil de sécurité des Nations Unies sur le conflit israélo-palestinien. L'initiative avait un caractère contraignant. Elle a finalement été remisée. Est-ce que c'est une politique de un pas en avant, un pas en arrière, Agnès Levallois?
J'ai le sentiment que c'est plutôt une politique opportuniste, c'est-à-dire qu'en fonction des événements, on voit des décisions qui sont prises, où il y a beaucoup d'effets d'annonce, et pas toujours suivi d'effets. On l'a beaucoup vu sur le dossier palestinien en particulier, où on a vu parfois des déclarations, cette proposition de résolution dont vous parlez, qui a été proposée par Laurent Fabius, et finalement, Laurent Fabius a fait marche arrière, alors que là, c'était une initiative que je trouve était intéressante, qui permettait de tenter en tous les cas de l'impasse dans laquelle se trouve ce dossier. Mais on a le sentiment que la France, parfois, comme ça, a des idées, mais elle ne se donne pas les moyens d'aller jusqu'au bout. Et donc ça, sur le dossier palestinien, c'est très clair. Sur la Syrie, on a vu beaucoup... Alors, il y a quand même une constante sur la Syrie, depuis le début. Ça, on doit reconnaître cette constante qui était de dire « Bachar el-Assad ne fait plus partie du jeu ». Mais en même temps, avec peut-être, dès le départ, une position tellement radicale que ça a empêché d'avoir une certaine marge de manœuvre et d'essayer de pouvoir réagir aux événements et, à partir de là, vraiment d'élaborer une politique. Et lorsque l'on voit cette décision il y a un an de faire partie de la coalition qui lançait des frappes contre Daesh en Irak, mais de refuser de le faire en Syrie, c'était absurde, parce qu'on voyait bien que pour Daesh, de toute façon, il n'y a pas de frontière entre l'Irak et la Syrie, donc de se limiter à un territoire sans s'intéresser à l'autre, ça n'avait pas de sens. Et un an plus tard, on voit la France finalement se lancer aussi dans des frappes, alors toute seule, pas vraiment dans la coalition, tout en y étant. Donc voilà, le sentiment quand même que parfois il peut y avoir une réflexion qui est bien menée, mais sans arriver à se donner les moyens finalement d'aller jusqu'au bout et sans qu'on sache exactement est-ce qu'il y a une vision sur l'ensemble de la région qui permet de donner de la cohérence à ces différentes actions.
On parlera plus tard de l'Iran. Jean-Paul Chagnolot, la France ne va pas au bout sur la question israélo-palestinienne et puis une politique, une position trop radicale sur la Syrie. Elle se cherche, la France, en tout cas, voilà, est-ce que c'est une politique plutôt au cas par cas, donc, et ce qui vient renchérir ce que disait à l'instant Agnès Levallois, un manque de vision globale.
Jean-Paul Chagnolot. Je suis globalement d'accord. Je crois que quand on parle de la France, il faudrait s'interroger sur ce que ça veut dire exactement. C'est-à-dire qu'en fait, quels sont les mécanismes de décision de la politique étrangère? Et à fréquenter un tout petit peu ces cercles, je vois à quel point il y a une grande hétérogénéité. Il y a beaucoup d'à-coups, beaucoup d'hésitations. En définitive, on a plusieurs lieux de préparation d'une décision. Au ministère de la Défense, qui a un rôle. Au Quai d'Orsay, bien entendu. En dernière instance, c'est l'Élysée. Et quand c'est l'Élysée, en dernière instance, c'est dans la Ve République, le président de la République. Donc en fait, la France, c'est un ensemble de décideurs qui, en dernière instance, s'est tranché par le président de la République dans des conditions qui sont quelquefois tout à fait étonnantes, quoi. D'improvisation. Moi, je pense par exemple ce qui s'est passé l'été dernier au moment de l'agression israélienne sur Gaza. Il est bien clair que là, en dernière instance, il y avait des. Moi, j'ai vu des décideurs qui géraient par SMS les réactivités du président de la République. Enfin, c'était assez invraisemblable. Il n'y a eu aucune ligne précise, aucune position véritable. Et j'ai vu, mais alors presque de, enfin, j'ai vu concrètement de mes propres yeux, si je puis dire, le ministre des Affaires étrangères courir, Fabius, courir après Mahmoud Abbas fin juillet parce que il voulait essayer de récupérer une position par rapport aux Palestiniens parce que l'Élysée avait été trop loin. Donc j'ai vu devant moi cette improvisation un peu étonnante. Quand je dis un peu étonnante, elle n'est pas vraiment étonnante. Donc moi, ce qui me paraît vraiment préoccupant, c'est ça, c'est l'absence de vision, mais qui est liée aussi à un grand brouillage dans la, et pour pas dire un brouillon dans les prises de décision, qui sont vraiment quelquefois de l'improvisation. Sauf sur certains dossiers, c'est vrai, sur la Syrie, il y a eu une relative continuité. Ils ont essayé de faire un certain nombre de choses, mais dans d'autres sujets, comme disait Barack Obama, Obama fait pas beaucoup de choses concrètement, mais il parle assez bien. Il a une formule que j'aime beaucoup. Il a dit récemment sur un tout autre sujet que l'inaction est une décision politique. Mmh. Et alors là, en matière de politique étrangère, la France a fait beaucoup de décisions politiques. C'est-à-dire que quand on se tait, quand on n'agit pas, ce sont aussi des décisions politiques et on peut les analyser aussi point par point. Enfin, on reprendra ça tout à l'heure.
Oui, tout à fait, notamment sur la question syrienne avec l'inaction de l'été 2000.
Ou sur la Palestine. Enfin, vraiment, il y a vraiment des et ça se passe en ce moment. Regardons l'inaction. Et quand je dis inaction, c'est pas simplement faire quelque chose, puisqu'en termes politiques, ça peut être aussi une voix qu'on entend. Or, la voix, on l'entend pas. Donc, il fut une époque. Je suis pas nostalgique, contrairement à ce que disait un des participants à ce colloque dont vous parliez. Quand cette question, est-ce qu'il y a encore une politique française au Moyen-Orient, encore ne voulait pas dire qu'on était nostalgique de l'époque gaullienne. Mais il y a eu des moments où il y avait des prises de parole fortes. Et pas simplement à l'époque de Gaulle, beaucoup plus récemment. Et ça nous manque vraiment. Je trouve qu'il n'y a pas de parole forte. Et c'est peut-être parce qu'il n'y a pas non plus de vision forte.
Alors, il n'y a pas de paroles fortes. Il y avait des fondamentaux sur la politique française au Moyen-Orient. Ils ont, d'une certaine manière, volé en éclats. En tout cas, Alain Grèche, sur ce qui s'est dit cette question, Agnès Levallois et Jean-Paul Chagnolleau, vous partagez ?
Oui, tout à fait. Je voudrais parler d'une expérience, c'est-à-dire que dans les années 80, quand on était journaliste français et qu'on allait au Proche-Orient, on était accueillis de manière différente. On était accueillis, d'ailleurs des fois à tort, comme les représentants de la France, mais ça nous donnait un atout extraordinaire. C'est-à-dire que la France avait une voix qui s'entendait. Ça ne se traduisait pas forcément sur le terrain, mais ça donnait un prestige considérable à la politique française.
Il n'y a plus qu'au Liban, finalement.
Oui, cette voix s'est totalement éteinte, et quand on l'entend le plus souvent, on l'entend, je dirais, presque de manière plus radicale, plus néoconservatrice que celle des Américains. On l'a vu notamment sur le dossier iranien, où la France a joué vraiment la carte des monarchies du Golfe et de l'Arabie Saoudite contre celle de l'Iran. Et je pense qu'il manque aujourd'hui à la France, et c'est la différence, c'est pas tellement la capacité d'intervention, parce que c'est vrai que intervenir sur ces dossiers, c'est d'une complexité, on va y revenir, qui fait que même les États-Unis ou la Russie n'ont pas les moyens de régler les problèmes, mais d'avoir une voix qui pose un certain nombre de principes. Qui pose un certain nombre de principes fondamentaux, qui sont notamment les droits des peuples de cette région à se gérer eux-mêmes, et le droit du peuple palestinien, qui est le seul qui n'a pas d'État aujourd'hui, à avoir son propre État, à l'affirmer de manière forte. Le général de Gaulle l'a fait en 67, tous les présidents successifs l'ont fait, après qu'ils soient de droite ou de gauche, jusqu'à François Mitterrand, et en tous les cas en partie Jacques Chirac. C'est un discours qui a disparu, non pas dans le sens où la France n'est plus pour un État palestinien, mais la France est dans une vision à l'égard de ce conflit. C'est, en gros, c'est un conflit entre deux protagonistes et il faut qu'ils négocient, comme si on pensait que Israéliens et Palestiniens, dans le rapport de force actuel, pouvaient négocier et aboutir à quelque chose. Il n'y a pas que, mais la diplomatie française n'a pas encore compris que les accords d'Oslo sont morts depuis 10 ans et on fait comme si ces accords existaient.
Alors, les accords d'Oslo dont Mahmoud Abbas a justement précisé que pour lui, ils étaient morts et enterrés d'une certaine manière. Jean-Paul Chagnolleau.
Je crois que pour aller dans le même sens qu'Alain Grèche, il y a eu un discours de François Hollande à la Knesset, c'était il y a 2 ans. Le hasard a fait que j'assistais à ce discours. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il n'y a pas eu un mot, non pas sur les accords d'Oslo ou sur telle ou telle proposition politique, mais sur le droit international. Et quand un chef d'État, un chef d'État de la France, avec tout ce que ça représente comme symbolique et comme densité politique, ne fait même pas allusion au droit international, C'est je trouve, disons, préoccupant. Et j'ai évoqué cela avec les collaborateurs du président de la République à ce moment-là, et je leur ai dit, mais pourquoi est-ce que le président n'a pas rappelé les fondamentaux en droit international ? Et réponse des collaborateurs, c'est-à-dire des gens du Quai, ils m'ont dit, parce que, en fait... nous ne voulions pas gêner nos invités, nous ne voulions pas avoir de réaction au sein de la CNESET. C'était vraiment une vision de, je dirais pas de court terme, c'est plus qu'il faudrait inventer une autre formule, quoi. C'est dans l'immédiateté d'une réaction, on ne voulait pas que certains députés sortent de la CNESET. C'était quand même assez navrant, parce que s'il y a bien un moment où il faut dire les choses avec force, c'est dans un lieu comme celui-là, et par rapport au droit international. Puis un autre exemple, pour avoir le même sens... vous avez évoqué l'Iran, on y reviendra peut-être, mais j'étais stupéfait de voir là aussi avec quelques-uns qui sont des, non pas des décideurs, mais proches des décideurs, et qui, il n'y a pas si longtemps, montraient l'importance de notre relation avec le Qatar. Et avec quelqu'un d'autre, on s'est permis de faire remarquer que peut-être que l'Iran avait plus d'importance à terme, et à mon grand étonnement, j'ai étonné la personne qui avec qui je parlais, qui donc mettait quelque part sur le même plan le Qatar et l'Iran. C'est-à-dire que non seulement on n'a pas anticipé ce qui était une évidence, une relation nécessaire, complexe, difficile avec un grand pays dans les années qui viennent, mais en plus on a raccroché, comme vous l'avez évoqué, on a raccroché le train mené par les États-Unis, et je trouve que c'est voilà deux exemples très concrets où la France pourrait avoir sinon une capacité d'initiative avec les moyens qu'elle a, mais au moins une voix qui dise voilà les grandes directions. Et franchement, ça, je les ai pas vues.
Agnès Levallois.
Oui, je voulais aller dans le sens de ce que vient de rappeler Jean-Paul Chagnol à propos du discours de François Hollande lors de son voyage en Israël il y a 2 ans, et ça faisait écho pour moi à ce fameux discours de François Mitterrand en 80 à la Knesset, qui lui, à ce moment-là, avait vraiment tenu un discours fort sur la reconnaissance de ce droit du peuple palestinien. Il y avait eu quelque temps auparavant la déclaration de Venise, une déclaration de l'Union européenne sur la Palestine, et donc à l'époque, alors on va pas non plus faire de la nostalgie, mais il y avait quand même une parole forte de la France et qui était en capacité d'entraîner une partie, en tous les cas, dans le cadre de l'Europe, d'avoir cette parole forte. Et la France était moteur un peu de ce mouvement et de cette capacité à pouvoir affirmer quelques grands principes qui étaient importants et qui méritaient d'être appelés. Et donc la France avait cette capacité à faire bouger les lignes ou à essayer, en tous les cas, d'avoir cet effet d'entraînement. Or aujourd'hui, je ne vois pas cet effet d'entraînement du tout de la part de la France sur des sujets sur lesquels la diplomatie française a quand même traditionnellement une expérience et une capacité à dire des choses et avoir une voix qui peut se faire entendre aussi dans cette région. Et donc c'est là, je crois, aujourd'hui la grande différence et l'incapacité à formuler quelques-unes de ces paroles fortes qui peuvent marquer, quand on pense encore à ce discours de Mitterrand ou à sa déclaration de Venise, des années et des années après, c'est quand même significatif de la preuve que ces paroles, à ce moment-là, ont eu un poids et qu'on s'en souvient encore aujourd'hui. Je ne suis pas sûre que dans quelques années, on se souviendra d'une parole forte de la diplomatie française ou du président de la République française sur cette région.
Alors, pas de parole forte, en tout cas, la question qui peut aussi se poser, c'est savoir d'essayer d'évaluer l'impact d'une parole forte aujourd'hui. Aujourd'hui, quand les actions ne suivent pas, Alain Grèche.
Mais si on se rappelle du discours aussi bien de Charles de Gaulle après 67 ou celui de Mitterrand à la Knesset en 81, à l'époque, ça n'avait pas de répercussions immédiates. Mais c'est très important parce que ce sont ces discours qui ont préparé les négociations israélo-palestiniennes, c'est-à-dire la reconnaissance du fait palestinien que les Israéliens refusaient. Aujourd'hui, non seulement on n'a pas cette parole forte, mais moi je serais beaucoup plus sévère. En fait, on a une politique qui a changé fondamentalement, qui s'est rapprochée stratégiquement d'Israël. Et ça, c'est quelque chose d'important. Il faut rappeler que c'est pas seulement une parole forte qui a manqué. On a soutenu l'agression israélienne à Gaza en 2014. On a reçu les deux dirigeants israéliens. On a une volonté de montrer qu'on n'est pas anti-israélien, alors que nous avons en Israël un gouvernement qui compte des partis fascisants. Et ça ne nous pose aucun problème. Alors que les mêmes partis élus n'importe où ailleurs auraient entraîné des mesures de rétorsion de la part de la France ou de l'Union européenne. Il y a quand même, moi je pense, un changement qui est très profond de la politique française. Il n'a pas été discuté, il n'est pas apparent au sens, il n'y a pas eu une rupture. On est sur les mêmes principes, c'est-à-dire un État palestinien aux côtés de l'État d'Israël. Mais dans la réalité, on entérine la politique israélienne, qui est une politique de colonisation. Même si tous les jours, pratiquement tous les deux jours, il y a un communiqué du Quai d'Orsay disant on condamne la politique de colonisation, mais ça n'a aucun sens, puisque parallèlement, on a donné, c'est la France qui l'a fait, à Israël un statut au sein de l'Union européenne que n'a aucun autre État du monde.
Jean-Paul Genelot.
Je crois que quand Alain Grèche dit c'est un changement stratégique, il a raison, et en même temps, je ne crois pas que ce soit un changement stratégique, parce que on reconstruit intellectuellement des postures qui sont pas vraiment stratégiques, qui sont presque de l'ordre de la de la pulsion. On est proche des Israéliens sans qu'il y ait une réflexion stratégique véritable. C'est ça que je veux dire. C'est tout de même si on devait aller encore un peu plus loin dans le rapport à l'histoire, moi j'ai le sentiment à un moment donné qu'on se retrouvait avec la mentalité, je dis bien la mentalité, pas la stratégie, la mentalité de la SFIO, c'est-à-dire bon, une espèce de connivence très forte avec Israël, en repensant un Israël qui n'existe plus, parce que l'Israël aujourd'hui c'est la droite au pouvoir, la droite dure, et on n'est plus sur la question de savoir si Israël est menacé par les États arabes. Les ministres du gouvernement de Netanyahou aujourd'hui disent très clairement qu'ils veulent pas État palestinien et qu'ils veulent en fait garder tous les territoires. Donc on est vraiment dans une... Et de cela, évidemment, la France et le président Hollande ne tient pas du tout compte dans son discours, ni, et encore moins dans ses analyses. Mais il n'y a pas une réflexion. C'est ça qui, moi, en tant que citoyen, me choque un peu. Il n'y a pas une réflexion quelque part, d'après ce qu'on peut voir en discutant avec les entre guillemets les décideurs ou ceux qui sont proches, il n'y a pas une réflexion stratégique, c'est même pas ça. Si à la rigueur, si on avait décidé stratégiquement d'avoir une nouvelle orientation, je dirais bon, je suis en désaccord, mais au moins il y a une réflexion. Mais c'est même pas de l'ordre de la réflexion. Enfin, c'est vraiment comme ça, des relations individuelles, des penchants. Et je reprends la formule tout à l'heure que j'évoquais d'Obama, l'inaction, la passivité. Mais à ce niveau-là, ce sont des décisions politiques. Alors nous, entre guillemets intellectuels, on en fait des reconstructions stratégiques, mais c'est même pas ça. Je crois qu'on est vraiment dans quelque chose d'assez, on va pas être trop sévère, mais qui n'est pas, qui manque un peu de grandeur. Voilà.
En tout cas, ce que je remarque, c'est que pour parler de la politique au Moyen-Orient de la France, la question israélo-palestinienne a occupé une bonne partie, la majeure partie de cette première partie d'émission. On va parler de la Syrie, bien sûr, de l'Iran, mais juste un commentaire rapide sur cette prégnance de cette question, Agnès Levallois.
Écoutez, pour moi, de toute façon, cette question israélo-palestinienne, elle est quand même au cœur, et la centralité de cette question, pour moi, n'est pas à discuter, même si certains veulent la remettre en question régulièrement. Et on l'a beaucoup vu au lendemain des révolutions arabes, où on a dit, vous voyez bien, la question palestinienne n'est plus centrale, c'est quelque chose de complètement marginal. Moi, je continue à penser que cette question israélo-palestinienne est absolument centrale. La question de l'État palestinien est là et centrale. On n'en fera absolument pas l'économie, et donc ça me paraît tout à fait naturel qu'on en parle autant aujourd'hui, parce que c'est à partir de là qu'aussi un certain nombre de choses se passent. Alors je dis pas que le règlement demain matin de cette question réglera tous les problèmes de la région, évidemment, il ne s'agit pas de cela, mais il n'en demeure pas moins que cette question palestinienne, elle est là, et donc de vouloir faire en sorte qu'elle ne soit pas là, qu'elle ne soit pas au centre de la discussion, c'est une absurdité totale. Et je crois que cette diplomatie française aussi doit tenir compte de cette réalité, et non pas simplement parler de l'Iran, on va parler je pense du Golfe, parce qu'il y a aussi beaucoup à dire sur la politique française dans le Golfe, mais que cette question palestinienne, elle est là, et il faudrait quand même qu'un jour ou l'autre elle soit vraiment prise à bras le corps et qu'on sorte de cette situation qui est absolument catastrophique, mais pour l'ensemble de la région.
Alain Grèche, mais vraiment
une seconde. C'est les dirigeants militaires américains qui ont à plusieurs reprises répété que la non-solution de la question palestinienne était un des arguments essentiels pour lesquels les jeunes du monde entier rejoignaient Daesh et l'État islamique et Al-Qaïda. Et je pense que ça, aujourd'hui, on parle beaucoup de déradicalisation et d'autres choses où on pense que psychologiquement, on va aider les jeunes en difficulté. Il faudrait prendre en compte cette remarque.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Jean-Paul Chagnolot, Agnès Levallois et Alain Grèche dans quelques instants. À tout de suite.
We'll be right back.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
La France a-t-elle encore une politique au Moyen-Orient? Nous retrouvons nos invités, Agnès Levallois, consultante spécialiste du Moyen-Orient et des questions méditerranéennes, chargée de cours à l'ENA et à Sciences Po, Jean-Paul Chagnolot, directeur de la revue Confluence Méditerranée et de l'IREMO, l'Institut de Recherche et d'Études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient, et Alain Grèche, directeur de la revue Orient 21. Nous avons beaucoup parlé de la centralité de la question israélo-palestinienne dans ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient. La Syrie, est-ce que nous avons vraiment raté une occasion, je pense, à août 2013, avec le lâchage, d'une certaine manière, par les Américains, dans l'élan qui était de riposter à la ligne rouge franchie par Bachar el-Assad? Est-ce que la non-intervention de la France, des États-Unis, a été, de votre point de vue, déterminante dans la dégradation de la situation? Jean-Paul Chagnolot.
Ben, je crois effectivement que c'est un moment fondamental, oui, parce que je crois que il y a deux débats dans cette affaire. Le premier, c'est fallait-il intervenir, mais je rappelle, il faut d'abord rappeler de quelle intervention il s'agissait. Il s'agissait de faire en sorte qu'il y ait des lignes rouges tracées parce que on voulait, enfin, le régime utilisait des armes chimiques qui sont interdites en droit international. On revient en droit international. Et par conséquent, la question est de savoir si on intervenait pour sanctionner ce franchissement terrible qui est lié à l'utilisation des armes chimiques. Fallait-il ou non le faire? Première chose. Puis deuxième chose, quand on avait dit qu'on allait le faire, eh bien là, il fallait le faire. Donc moi, je place d'emblée dans la seconde catégorie, c'est-à-dire qu'on a annoncé qu'on allait le faire, les États-Unis ont dit qu'ils allaient le faire, les Français étaient prêts du point de vue opérationnel, on en discutait avec des militaires de haut rang à ce colloque, et les dimensions opérationnelles de cette affaire étaient en route, et puis la Grande-Bretagne, avec le vote de la Chambre des communes, dont on se souvient très bien, avec qui était traumatisé par le mensonge d'État de Tony Blair, et donc finalement, on n'y est pas allé. Et je crois que ça a eu des conséquences très importantes sur le terrain et sur le plan politique. Donc de ce point de vue-là, je pense que ça a été un moment tout à fait clé. Sans doute les opposants à Bachar el-Assad s'attendaient à un affaiblissement du régime à la suite de ces attaques, et inversement, du côté du régime, on craignait quand même ces interventions dont par ailleurs on ne sait pas quelle aurait été la nature ni l'importance. Donc après, il y a un vaste débat là-dessus. Mais je crois que c'est effectivement, quelle que soit la manière dont on prend le problème, un moment important dans la dégradation de la situation tragique qui s'est aujourd'hui en Syrie.
Alors, est-ce que la France a finalement raté une belle occasion de montrer qu'elle pouvait encore agir au Moyen-Orient?
Oui, je crois que ça pose la question qui était d'ailleurs le thème d'une des tables rondes du colloque dont on parlait tout à l'heure, qui était: est-ce que la France peut agir seule? Et on voit bien clairement que la France ne peut pas agir seule, et dans le cas de la Syrie, c'était absolument évident. Et le drame de cette situation, c'est que finalement, un espèce de permis de tuer a été donné à Bachar el-Assad à partir de ce moment-là, puisque les fameuses ligne rouge avait été largement franchie par ce régime, et qu'il n'y a pas eu de riposte, et que la France s'est retrouvée là en position extrêmement difficile, puisqu'elle voulait, elle pensait qu'il fallait effectivement intervenir, et que d'être lâchée par ses partenaires a démontré l'incapacité de la France, d'un point de vue militaire, à agir toute seule. C'est ça la question aujourd'hui: que peut faire la France? Il n'y a pas de politique européenne. Si à la limite les États-Unis avaient refusé, mais qu'il y avait une véritable politique européenne, un accord de l'ensemble des acteurs européens, peut-être que là, les choses auraient été différentes. Et donc là, ça pose aujourd'hui cette question de cette Europe, et comment agir dans le cadre de cette Europe quand on est un État et que tout seul, finalement, on ne peut rien faire.
Alain Grèche.
Moi, je pense qu'il faut remonter à la contradiction de la politique française face au printemps arabe. La France a soutenu, tout gouvernement confondu, les dictatures tunisiennes, libyennes, égyptiennes, sans aucun état d'âme, jusqu'au dernier moment. Quand il y a eu les printemps arabes, il y a eu, avec la chute des deux régimes tunisiens et égyptiens, avec les mouvements en Syrie, les mouvements au Yémen, au Libye, l'illusion que ça allait se dérouler de la même manière partout. Et la France s'est placée, et tant mieux, sur l'idée que nous étions pour la démocratisation. Et c'est au nom de ça qu'on est intervenu militairement en Libye. Il faut quand même, quelles que soient les bonnes intentions au départ, se poser des questions sur cette intervention militaire en Libye qui a abouti à un désastre absolu. En Syrie, moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est le décalage du discours. Je ne parle pas de qu'est-ce qu'il faut faire sur le terrain, parce que je pense que c'est très difficile. Entre un discours qui dit « nous soutenons des mouvements parce qu'ils veulent une démocratisation en Syrie », et le fait qu'aujourd'hui, le Premier ministre français se rend en Égypte à la suite du président de la République pour entériner une des dictatures quand même qu'il y a, il doit y avoir 40 000 prisonniers politiques, l'usage de la torture, etc. Que notre allié sur le dossier syrien, c'est l'Arabie saoudite. Je veux dire, là, il y a une contradiction que d'une certaine manière, le régime syrien utilise en disant, vous n'avez pas du tout comme objectif la défense du mouvement démocratique. En fait, c'est un jeu de grande puissance et on voit aujourd'hui la Russie qui tient exactement le même discours. Mais l'autre chose qu'il faut dire aujourd'hui, quand on est face à ce dossier syrien et que on demande comment en sortir, franchement, il n'y a pas de solution facile. Réellement, quand on dit qu'est-ce qu'il faudrait comme politique, c'est pas évident. Et de ce point de vue, réfléchissons un peu sur les interventions militaires. Vous savez, pour l'Occident, c'est une des manières les plus faciles d'intervenir en général. Parce que finalement, on dispose d'une telle supériorité par rapport aux armées ou aux régimes qu'on peut intervenir sans coût important. Mais dans la réalité, on l'a vu en Irak, on l'a vu en Libye, ça ne donne pas toujours des solutions. Alors quelle est la solution? Tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire il faudra une négociation avec des fractions du régime, etc. Je veux dire, bon, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Même quand on dit nous bombardons l'État islamique et nous soutenons l'opposition démocratique, en fait, on sait très bien que c'est pas ça. C'est-à-dire, il y a l'État islamique, il y a une coalition extrêmement large et une des plus puissantes qui regroupe Jabhat al-Nusra, qui est liée à Al-Qaïda. Et il y a un certain nombre de groupes qui sont l'armée syrienne libre. Donc c'est face à cette réalité politique que il faut essayer de trouver une solution. Moi je pense que la solution elle est en partie internationale, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un accord entre les Russes et les Américains, il faut qu'il y ait un accord entre
et
un accord entre les Saoudiens, les Iraniens et les Turcs, et que ça permettrait d'avancer. Mais je sais qu'un État ne peut pas fonder toute sa politique sur la défense de la démocratie et des droits humains. Il faut des rapports avec l'Arabie saoudite, il faut même des rapports avec l'Égypte telle qu'elle est aujourd'hui. Mais il y a une différence entre avoir des rapports et tenir un discours aujourd'hui qui est de dire l'Égypte est notre allié dans la lutte contre le terrorisme, l'Arabie saoudite est notre allié dans la lutte contre le terrorisme, ce qui n'est pas vrai en plus, parce que l'Arabie saoudite a alimenté très largement les discours les plus extrémistes auxquels on fait face aujourd'hui dans la région et parfois chez nous.
Jean-Paul Chagnolot.
Sur l'intervention, moi je crois qu'il ne faut pas penser que toutes les interventions qui ont été évoquées sont de même nature. Je crois qu'il y a une distinction importante que faisait un des éminents intervenants en colloque entre intervention de puissance et intervention multilatérale. L'intervention de puissance, c'est finalement l'intervention unilatérale. Celle qui permet à une puissance, les États-Unis en Irak par exemple, de décider, indépendamment du droit international, pour ses propres intérêts, et quelles qu'en soient les conséquences, d'agir. Bon, et puis il y a l'intervention multilatérale. Alors c'est beaucoup plus compliqué, l'intervention multilatérale, et ça renvoie au droit international. C'est-à-dire que quand on pense à cette intervention qui n'a pas eu lieu en août 2013, c'était pas, à mes yeux, une intervention de puissance, c'était une intervention multilatérale qui, quelque part, avait un rapport au droit international, même si on ne pouvait pas passer par le Conseil de sécurité, puisque le Conseil de sécurité était bloqué par la Russie et la Chine. Mais on doit distinguer les choses. Sur la Libye, c'est une intervention multilatérale, avec aussi une résolution du Conseil de sécurité. Bon, ça s'est mal terminé, c'est vrai, mais je ne sais pas ce qui serait passé si on n'était pas intervenu. Autrement dit, quelles sont les conséquences d'une non-intervention, si c'est compliqué. Mais je crois qu'il faut vraiment avoir à l'esprit qu'une intervention, je parle d'une intervention militaire, elles sont de nature différente. Et je pense que l'intervention multilatérale, après tout, ça nous renvoie à la Charte des Nations Unies, ça nous renvoie à une certaine idée de la communauté internationale quand un certain nombre de règles fondamentales sont bafouées par un État. Bon, long débat, eh bien, une intervention peut être légitime. Alors après, dans quelles conditions, pourquoi faire, enfin c'est extrêmement compliqué. Première remarque. Puis deuxième remarque, tout de même, dans cette affaire, moi ce qui me frappe en l'espace de 3-4 ans, c'est la déliquescence, la décomposition des puissances occidentales, États-Unis, France, alors j'ose pas dire Union Européenne, parce que c'est plutôt une impuissance, et en face, la Russie intervient. Elle intervient de mille façons. Alors, du point de vue droit, elle intervient à la demande. Ça, c'est encore un autre type d'intervention, mais c'est quand même une intervention de puissance, elle aussi. Et du coup, les Russes sont en position de force aujourd'hui à tous égards. Et ce qu'ils ont commencé à faire, c'est-à-dire, en fait, bombarder, pas simplement l'État islamique, mais bombarder tout ce qui s'oppose à Bachar el-Assad, c'est bien clair. Ça conduit à ce que la Russie revient au centre d'un jeu dont elle avait été il y a quelques années, il faut le rappeler, complètement oublié. Enfin, en 2003 ou en 91, a fortiori, l'Union soviétique, d'abord, en 91, avait disparu, au moment de la guerre du Golfe, n'existait plus. enfin, la laine plus existait, puisque la guerre du Golfe, c'est début de l'année 91, et l'URSS disparaît fin décembre 1991, et en 2003, la Russie n'a aucun moyen d'action. Donc, on est vraiment dans un renversement aussi de rapport de force, et dans une configuration géopolitique qui est aujourd'hui très différente, à mes yeux.
Et donc, je vais juste ajouter un mot qui me frappe en écoutant ce qu'on est en train de dire, et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a d'un côté la France, puisqu'on parle beaucoup de la France, mais également les Américains, qui, par exemple, sur le dossier syrien, ont fait énormément de déclarations. Se sont beaucoup exprimés sur ce qu'il fallait faire, pas faire, des lignes rouges, pas des lignes rouges, on n'intervient pas, sans agir véritablement sur le terrain. La preuve, on n'a pas arrêté de dire qu'il fallait intervenir avec ces lignes rouges, il ne s'est rien passé. Et de l'autre côté, on a d'autres acteurs, et je pense en particulier à la Russie, qui, dès le départ de ce conflit, a quand même été assez discrète, en dehors du fait de dire qu'elle soutenait ce régime de Bachar el-Assad, mais on l'a pas entendu faire des déclarations fracassantes depuis quelques années, mais on la voit revenir, alors là, pour le coup, en force, avec une position très claire sur ce dossier. Et donc là, on est face à deux attitudes radicalement différentes. D'un côté, des Européens, des Américains qui n'arrêtent pas de parler et qui n'ont jamais été en mesure d'appliquer leurs déclarations, que ce soit dès le départ le soutien à cette fameuse opposition qui était un soutien extrêmement minimaliste, pour ne pas dire pratiquement inexistant, mais alors des propos absolument tonitruants sur ce que devait de faire ce régime ou pas. Et de l'autre côté, on a des Russes et des Iraniens qui, eux, sont sur le terrain, qui ne parlent pas beaucoup, mais qui agissent et qui sont aujourd'hui les vrais maîtres sur le terrain, alors qu'il n'y a eu pratiquement aucune déclaration. Et donc là, ça pose aussi une question sur cette façon qu'on a de communiquer, de parler sans cesse pour ne rien faire. Et de l'autre côté, des acteurs qui, eux, rapoucou, sont largement constants et Bachar el-Assad sait qu'il peut compter sur eux sans de mauvaises surprises, ce qui n'est pas le cas de l'opposition.
Alors, est-ce que pour aller plus loin, on ne peut pas dire que les agendas de politique intérieure des uns et des autres, je pense aux Américains, je pense aux Français, la France est quand même le pays d'Europe où se trouvent les communautés juives et arabes les plus importantes, et la Russie aujourd'hui très active en Syrie parce que des problèmes en Ukraine. Voilà, c'est la question que je pose. Est-ce que les agendas de politique intérieure ne sont pas en train de prendre le dessus sur toutes ces questions, Alain Grèche ?
Aujourd'hui, je ne suis pas tout à fait sûr que la Russie soit maître du jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont une politique très cohérente, ils interviennent, mais on est au début du processus. Oui. Je veux dire, il faut se rappeler qu'ils sont intervenus déjà en Afghanistan et ils ne l'ont pas emporté en paradis. Et que s'ils s'attaquent vraiment avec ce qui semble aujourd'hui des troupes, des volontaires sur le terrain, etc., d'abord, militairement, je ne suis pas du tout sûr qu'ils vont gagner, parce que les guerres coloniales de ce type ne se gagnent pas avec des troupes étrangères, et je ne suis pas sûr qu'ils ne vont pas se heurter dans le monde arabe et musulman à une opposition qui, y compris interne d'ailleurs d'une partie de la population, il faut rappeler qu'il y a 10% ou 15% de musulmans en Russie, a une opposition très forte. Alors c'est vrai que chacun est tenu par ses politiques intérieures. Mais je dirais Obama, il faut pas oublier qu'il a été élu avec l'idée d'arrêter les aventures militaires dans la région. Et moi, je ne lui reprocherai pas. Je veux dire, l'aventure en Afghanistan, une des choses qu'on n'a pas remarqué, moi qui m'a beaucoup frappé, c'est au moment où on a eu cette escalade avec l'intervention russe, on avait Kunduz, qui est une des villes principales
dans le nord de l'Afghanistan,
qui tombait aux mains des talibans. C'est-à-dire, ça fait 15 ans qu'on mène la guerre, les Occidentaux ont mené la guerre en Afghanistan au nom du fait que c'était absolument décisif pour protéger nos propres citoyens ici. Nos propres citoyens ici n'ont jamais été autant menacés. Et là-bas, si demain l'armée américaine se retire totalement, ce qu'elle n'a pas fait, le régime s'effondrera beaucoup plus vite que ne s'est effondré le régime communiste après le retrait des troupes soviétiques. Donc, il faut quand même à un moment se demander si ces interventions militaires aussi pleines de bonnes intentions au départ, sont vraiment la bonne solution. La diplomatie, c'est beaucoup plus difficile. Je veux dire, regardons, ça n'a pas tout à fait de rapport, mais ce qui s'est passé sur l'Iran, il a fallu 12 ans de négociations. Et il y avait tellement de gens qui, depuis longtemps, y compris avec des voix en France, pour dire il faut une intervention militaire. Mais finalement, on a apporté une solution. Je répète, je n'ai pas de solution toute faite pour la Syrie. Je pense que aujourd'hui, ce qu'on peut espérer le mieux, c'est l'arrêt des combats. Et je pense que les Russes vont s'enliser là-bas et qu'ils ne vont pas remporter les victoires qu'ils attendent, quelles que soient les forces qu'ils mettent sur le terrain.
Jean-Paul Chagnolo.
Oui, moi je suis assez d'accord. Sauf que les Russes, nous ne sommes pas du tout dans la même situation que celle de l'Afghanistan, bien sûr. Parce que là, je pense que la Russie est en capacité, non pas de dominer sur le terrain, mais elle se donne, me semble-t-il, des moyens militaires qui sont des moyens d'influence. Et du coup, dans la perspective d'un règlement politique, parce qu'il faudra bien un jour arriver à un règlement politique, la Russie a des atouts que les Occidentaux n'ont plus. C'est ça que je veux dire. Il ne s'agit pas du tout, dans mon esprit, de penser que la Russie, par ses interventions militaires, va gagner sur le terrain. Ça, bien entendu, ça n'a pas de sens. Mais il y a une dialectique entre le militaire et le diplomate, et qui fait que les diplomates russes seront en capacité beaucoup plus efficace, parce que il y aura une réalité sur le terrain. Ils soutiennent Bachar el-Assad, et ils se donnent les moyens de le faire. Ça revient, nous, à notre inaction, qui, une fois encore, est une forme de décision politique, quoi. Parce qu'on a beaucoup annoncé de choses, et on les a pas faites. Je pensais au débat tout à fait au début sur les no-flying zones, sur les zones de protection aérienne. Il s'agissait pas de demander à l'OTAN de le faire, mais on pouvait imaginer que, localement, par des armes spécifiques, les rebelles pouvaient le faire.
Alors, pour terminer sur un dossier qu'on a évoqué, mais qu'on n'a pas approfondi, il nous reste 2-3 minutes pour le faire, je sais que ça va être compliqué, c'est la relation avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, pour parler de la France. François Hollande, premier dirigeant occidental, a participé en mai 2015 au sommet de coopération du Golfe. Agnès Levallois.
Écoutez, ça a été présenté comme une grande victoire de la diplomatie française d'être que François Hollande soit ce premier chef d'État reçu dans cette enceinte. François Hollande a déjà fait plusieurs déplacements en Arabie Saoudite, donc à la différence de l'époque de Sarkozy qui lui passait tous ses week-ends au Qatar, là on a pris l'autre bien en se disant finalement l'Arabie Saoudite c'est bien, et puis c'est un marché plus important, plus intéressant, et donc on va mettre tous nos œufs dans ce panier-là.
Marché pour les ventes d'armes, on a bien
sûr.
Compris.
Donc c'est vrai que très bien si ça peut faire marcher l'industrie française, on ne peut que se réjouir effectivement de remporter quelques marchés. Si l'Arabie Saoudite fait cela, c'est aussi pour montrer son mécontentement quand même aux Américains. Et je pense que cette politique de la France, pourquoi pas, mais je pense qu'elle devrait quand même s'accompagner de contreparties, et qu'on ne peut pas simplement aller en Arabie pour remporter des marchés, et qu'il y a un certain nombre d'autres questions qui doivent être apportées dans ce contexte, en particulier la question des droits de l'homme quand même. Quand on voit le comportement de l'Arabie Saoudite avec les décapitations qui ont lieu régulièrement, je pense que là, la France ne peut pas se contenter simplement de faire des visites de VRP pour vendre des armes, mais qu'il faut aussi prendre en compte un autre volet qui est ce volet-là. Et ça rejoint ce que disait Alain Gage tout à l'heure sur l'Égypte, où pareil, je veux dire, on a une relation aujourd'hui idyllique avec l'Égypte. Très bien, c'est un pays important de la région, mais on devrait aussi quand même faire entendre notre voix sur des autres dossiers qui sont des dossiers très importants pour le devenir de ces deux pays d'ailleurs.
L'Égypte à qui nous vendons Rafale et autres Mistral. Jean-Paul Chagnolot.
D'un mot, je pense que aller trop loin du côté de l'Arabie Saoudite pose bien des problèmes, et des problèmes aussi dans les équilibres régionaux. Et donc moi j'étais très étonné de cette visite au CCG, parce que ça voulait dire que la France prenait fait et cause pour l'Arabie Saoudite. Ça voulait dire ça aussi par rapport à la rivalité qui est aujourd'hui majeure entre Téhéran et puis Riyad. Donc je pense qu'il était tout à fait urgent de rééquilibrer tout cela, et donc d'avoir une ouverture à l'égard de l'Iran et avoir un dialogue avec l'Iran. Alors il y a quelques mois ça paraissait très difficile, la France était très crispée pour plein de raisons sur cette possibilité de parler à l'Iran. Les choses ont évolué. Et je pense essentiel que si la France veut jouer un rôle, justement, c'est précisément dans cette rivalité entre Riyad et Téhéran, jouer un rôle peut-être, je ne dirais pas de médiateur, ça serait peut-être excessif, mais en tout cas, de pouvoir parler aux deux. Et il se trouve qu'il y a quelque chose qui se passe avec l'Iran, et moi je pense que c'est très important que la France renoue des relations fortes avec ce grand pays.
Et il y a aussi un pays dont on n'a pas parlé, c'est la Turquie, avec des relations compliquées entre Ankara et Paris. Alain Grèche, vous ne me contredirez pas?
Non, je voudrais juste rajouter un mot quand même sur l'Arabie Saoudite, c'est la guerre au Yémen. C'est pas seulement qu'on a des bonnes relations, c'est qu'on appuie une guerre qui est une guerre de destruction du pays le plus pauvre de la péninsule et à peu près un des 20 pays les plus pauvres du monde. C'est quand même incroyable, avec des crimes de guerre, et nous avons accepté le fait qu'il n'y ait pas de commission d'enquête internationale, et il ne faut pas oublier que nous avons entériné aussi le fait que l'Arabie Saoudite préside la commission des droits de l'homme des Nations Unies. On est quand même dans quelque chose d'absurde. Sur la Turquie, on a effectivement c'est extrêmement difficile, parce que la Turquie a une position très, très particulière, c'est-à-dire à la fois elle se bat contre Bachar el-Assad est un des pays les plus déterminés dans sa chute, et l'autre c'est qu'elle se bat contre les Kurdes, qui par ailleurs sont nos alliés contre Bachar el-Assad. Donc on est dans une position là aussi compliquée, mais comme on le sait, l'Orient est une région compliquée.
Merci, c'est la fin de Géopolitique consacrée à la politique de la France à l'égard du Moyen-Orient. Merci à nos invités, Agnès Levallois, consultante spécialiste du Moyen-Orient et des questions méditerranéennes, chargée de cours à l'ENA et à Sciences Po, Jean-Paul Chagnolot, directeur de la revue Confluence Méditerranée et directeur de l'IREMO, l'Institut de Recherche et d'Études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient, et Alain Grèche, directeur de la revue Orient 21. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique, le débat. Émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Jonathan Brédy. À samedi prochain.